Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est le début de l'émission « Peut contenir des infos ».
Bonjour!
Et nous vous retrouvons, mes très chers amis, avec un plaisir renouvelé d'une fois à l'autre.
C'est incroyable. J'en tiens même pas sur ma chaise, mon cher.
L'air pas pire quand même. L'air pas pire.
OK. Simon?
Oui, vas-y.
T'es-tu prêt?
Je commence à m'y habituer tranquillement, pas trop vite.
Oh, c'est bien ça. Le mot de cette semaine, c'est « coupe ».
OK. Coupe. J'essaie de réfléchir rapidement.
Et tu verras le lien après.
Coupe. Disons que il y a loin de la coupe aux lèvres avant qu'on réussisse à passer à travers de cette émission-ci, parce qu'il faut faire l'heure entière, évidemment.
J'étais certain que tu allais utiliser coupe aux lèvres. Parce que...
C'est vrai?
Ben oui, parce que aujourd'hui, un de nos sujets... C'est qu'on parle de hockey.
Ah ben, tu m'en dis
avec, pas. Ben oui, avec Nicolas Saint-Pierre, la voix des sénateurs d'Ottawa, qui va venir nous parler de la saison de hockey. Alors, je savais qu'en sortant en coupe, tu irais vraiment, vraiment dans ce sens-là.
OK.
Mais je suis content.
J'étais un peu influencé, il faut dire, par notre invité, mais je savais pas du tout ce dont tu allais me parler ou enfin le mot que tu allais me sortir. Puis probablement que j'ai été influencé par...
Ben oui, parce que, bon, t'avais Nicolas un peu en tête. Et on va avoir une deuxième entrevue, Simon, avec Isabelle Girard, qui est de la Société canadienne du cancer.
OK, et on va parler, oui, c'est vrai, du mois d'octobre.
Oui, oui.
Parce que c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein.
Effectivement.
Plusieurs activités qui vont se dérouler.
Oui. Et on va terminer l'émission avec...
Avec un quiz.
Ben, avec un quiz, mon cher Simon. Et cette semaine...
Annonce les
couleurs. C'est moi, l'animateur.
Puis t'annonces pas les couleurs tout de suite, non?
Pas en tout.
OK, ben c'est bon. Un coup d'or.
Mais... Ça va être assez général comme quiz.
OK.
OK.
Donc, il n'y a pas de thématique nécessaire.
Non, pas nécessairement de thématique. Et puis, je vais même te donner des choix de réponses pour t'aider un peu.
Oh, ben si, ouais, c'est gentil.
Ben oui. Écoute, j'ai un grand cœur, là.
T'avais une salutation ou pas?
Oui, j'ai une salutation. On voulait saluer auditrice de l'émission depuis quasiment ses débuts, Florence, qui nous écoute en rattrapage sur notre site.
Ah, c'est gentil, ça. Merci beaucoup, Florence.
Ben oui, merci, Florence. Bonjour à toi.
Salutations. Et puis, merci d'être là d'une semaine à l'autre pour écouter nos élucubrations.
Oui.
Des fois, ça va dans le bon sens.
Des fois, intelligente, des fois, non.
Des fois, ça dérape un peu.
Des fois. Des fois. Veux-tu commencer?
Oui.
Tu me parles...
Je peux te parler d'un petit ordinateur. Le Raspberry Pi.
Le Raspberry Pi.
Connais-tu le Raspberry Pi?
Je le connais, je vais te dire pourquoi.
Oui.
Parce que tu m'en as assez parlé au cours des années.
Oui.
Que je suis venu à faire des recherches sur le Raspberry Pi parce que ça avait piqué ma curiosité.
C'est un nano-ordinateur monocarte qui a été inventé en février 2012.
Mm-hmm.
Et... Pourquoi nano-ordinateur? Parce que t'as micro-ordinateur,
oui.
Mais nano-ordinateur, parce que c'est vraiment pas très, très gros, là. C'est à peine...
Tu parles gros, un gros comment, là?
C'est à peu près une carte de crédit. Tu veux dire comment c'est pas gros, là?
Une carte de crédit.
C'est à peu près gros comme une carte de crédit.
Avec des ports...
Tout est installé. Absolument. Et, ben, nano-carte, parce que contrairement aux ordinateurs domestiques, par exemple... toutes les composantes, justement, se trouvent présentes là-dessus. Tu sais, quand tu achètes un ordinateur, un PC domestique,
mm-hmm.
Tu as une motherboard,
oui.
Une carte mère.
Tu as une carte graphique.
Sur laquelle tu greffes d'autres composantes, carte graphique, carte de son, des trucs du genre. Mais elle, tout est installé dessus.
Tout est... OK.
Ça veut pas dire que tu peux pas connecter des trucs, des périphériques qui vont servir à la rigueur à augmenter ses capacités. Carte de son externe avec un port USB, par exemple, mais... Tout est installé, en théorie, dessus.
Okay.
Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, d'après
toi? Oui, moi, pourquoi tout d'un coup?
C'est que... il y a un nouveau Raspberry Pi qui va bientôt sortir à la fin du mois d'octobre et il est déjà en pré-vente.
Okay.
ça se peut qu'il l'achète parce qu'il n'est pas très, très cher. J'aime ça taponner dans des affaires de même. Alors, ça faisait quand même 4 ans que le dernier Raspberry Pi, le 4, était sorti. Okay. Et là, on annonce le 5 avec des performances qu'on estime de 2 à 3 fois plus élevées que le
dernier.
Ouais, ah, ouais. Oui. Et 2 fois plus de mémoire. Donc, ça va être une belle petite machine, vous allez voir ça. Et ça a été créé à l'origine dans le but, et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que peut contenir des infos, contient des infos. Et je veux juste vous informer que si vous avez
des fois, un peu d'infos.
Je veux juste vous informer que si vous avez des jeunes à la maison qui ont, disons, la fibre informatique, là, tu sais, ou qui sont des geeks.
C'est un petit peu nerd, là.
Ouais. Oui, OK. Ça peut arriver qu'ils aimeraient ça, avoir ça. Parce que ça coûte d'une part pas très cher. Okay. Vois-tu, le Raspberry Pi 5, il est annoncé à $60 US.
Hein? Ouais. Pour un ordinateur complet. Ben, pas complet, je veux dire, il n'y a pas d'écran,
Il n'y a pas de clavier, de trucs du genre, mais c'est quand même pas pire. Et ce Raspberry Pi, il a été créé à l'origine pour susciter ou encourager l'apprentissage de la programmation chez les jeunes. Ah, c'est devenu l'un des ordinateurs les plus répandus de la planète quand on veut concevoir des bricolages informatiques. Mais attendons-nous. On peut faire bien des affaires avec un Raspberry Pi, puis on peut faire quelque chose de bien basic aussi, là. C'est-à-dire que si on installe juste une distro Linux dedans, ça peut être un ordinateur comme un autre, avec un écran puis avec un clavier, mais ils ont moyen de faire des choses, et mes amis que j'ai fait des affaires avec ça, qui sont assez...
Parce que toi, t'en as un.
Oui, j'ai le modèle, le Pi 3B.
OK.
Donc, la troisième génération, mais un peu plus évoluée, qui m'a permis de concevoir, entre autres choses, un truc pour faire le streaming de musique.
Oh,
ouais.
OK.
Ça m'a permis de faire un centre de divertissement maison. Mais il sert pas très, très longtemps parce que j'aime ça taponner dedans puis changer d'utilisation.
On est trop pareil.
Là, je suis rendu un petit peu à... Je songe à faire une station météorologique avec.
Oh!
Ce serait probablement le genre de choses.
Oui, ça, c'est intéressant, ça, oui.
Ça a été développé par la fondation Raspberry Pi avec la collaboration de la compagnie Broadcom. Et c'est une compagnie qui se spécialise dans les composantes informatiques. C'est un ordinateur assez peu coûteux, je vous l'ai dit tantôt.
Ben oui.
Le plus récent modèle, là, celui qui va être vendu, il est en pré-vente, mais il va être disponible à tous à compter de la fin du mois d'octobre. C'est une 60aine de piastres US.
Fait qu'à peu près une centaine de piastres canadiens.
À peu près ça. Et moi, le mien, je l'ai acheté en 2017. On peut le faire fonctionner avec le système d'exploitation Linux, mais c'est aussi possible maintenant d'installer Android.
Oh! OK, attends une minute, là.
Oh, attends, là.
Oh, la game vient de changer.
Ah là, c'est un game changer.
Je pense que oui, moi.
Je pense que depuis quelques années, là, c'est un peu ce qui a boosté, entre autres choses, l'achat. Ça a l'air que le Raspberry Pi 4, qui est arrivé, comme je le disais, il y a 4 ans ou à peu près, le boost des ventes s'est survenu pendant la pandémie de COVID-19.
Okay.
Là, tout le monde, tout à coup, se sentait comme l'envie, le désir de devenir programmeur ou bidouilleur et tout ça. Ça fait qu'ils ont vendu bien des Raspberry Pi 4. Alors, on peut s'en servir, je vous l'ai dit, là, dans domotique, Internet des objets, robotique, médias, serveurs informatiques et tout ça. Alors, à date, là, je conclurai avec ça, 40 millions, un petit peu plus de 40 millions de Raspberry Pi ont été vendus à travers le monde. Et faites à noter, il existe différentes versions du Raspberry Pi qui sont sorties depuis son lancement. Moi, j'ai eu le 3B, entre autres. On est rendu au 5. Et il y a même, parce que quand il y a quelque chose qui marche, la compétition arrive.
Habituellement,
oui. Alors, il y a d'autres compétiteurs. Il y a, par exemple, le Asus ThinkerBoard, qui est un peu comme un copycat, là, si on veut.
Okay,
Il reproduit un peu l'idée du Raspberry Pi. Le BeagleBone Black. Et il y en a un autre qui, eux autres, ils ont pas été très, très loin dans la reproduction. Ils ont fait le Orange Pi. Fait qu'il y avait le Raspberry Pi.
Ils sont pas assis longtemps à la table pour penser à ça, là.
Puis le Orange Pi.
Oui, le Orange.
Ça. Alors, surveillez ça. Okay. Raspberry Pi, ça vous tente, là?
Mais quand tu y penses, là, OK, pour à peu près $150, là, tu pourrais te faire un ordinateur, là.
À toute fin utile. Avec un petit clavier là, basic, puis un écran,
même
branché à l'arrière sur un téléviseur avec port HD.
C'est ça que j'allais dire. HDMI, c'est ça que j'allais dire. Puis tu sais, Linux, ça coûte rien.
Exactement. Et ça permet à des jeunes qui sont des férus d'informatique et d'électronique et tout ça, de temps en temps, comme il a pas coûté 1000$ comme le gros ordinateur, il a coûté juste une centaine de piastres à peu près. C'est moins dérangeant, mettons, de jouer dedans puis d'à un moment donné, faire un petit bug ou quoi que ce soit du genre, tu dis, moi, juste le wiper, entre guillemets.
Exactement.
Et repartir avec un nouveau système d'exploitation.
J'ai tellement fait ça, moi, plus jeune.
Ben.
J'installais ben, les premières versions de Linux qui étaient disponibles, les Red Hat de ce monde-là. Je les installais, je les brisais, je recommençais. Mais c'était le fun, j'aimais ça.
Ben, comme tu dis, hein, quand on est en âge, justement, où on n'a pas trop peur, le problème avec l'informatique, si tu sais quoi, c'est que plus souvent qu'autrement, on a peur de faire des erreurs.
De briser quelque chose, oui, je sais.
On dit, t'as coup que j'irai à telle place.
Pourtant, c'est pas grave.
Du moment, ben, c'est pas grave. Si ben, vous avez
ça,
toute
ça
votre
peut, là, mais...
si vous avez toute votre vie de stocker dans votre ordinateur, oui. C'est peut-être pas une bonne idée d'ouvrir des pièces jointes qui viennent d'on ne sait où, d'on ne sait qui.
C'est ça.
Puis de vous ramasser sur des sites web où on vous dit téléphoner à tel numéro, on va vous aider à déboguer votre ordinateur. Bon.
Non, ça c'est pas une bonne idée.
Mais
il existe, si vous avez Windows, là, pas que vous êtes padé, là, mais je veux dire, tu peux quand même retourner en arrière avec Windows.
On crée des points de restauration,
c'est
effectivement.
Ça. Alors, vous pouvez retourner en arrière. Fait que si vous bisounez un petit peu dans votre ordinateur, puis vous arrivez à quelque part où vous voulez pas aller, ben c'est pas grave. T'sais, vous avez quand même un point de retour, là.
Comme ça.
Oui, c'est ça. On va rester un petit peu, dans l'informatique parce que je voulais te parler de Amazon Prime Video.
Oui.
Qui, malheureusement, va commencer à inclure de la publicité dans ses émissions et ses films.
Ah, je suis pas surpris.
Et ça à partir du début de l'année prochaine. Ben, il fallait s'y attendre. Okay. La majorité des majors, ils ont tous de la pub.
Ben, Netflix le fait, Disney Plus le fait ces temps-ci.
C'est ça. Alors, les membres d'Amazon Prime, dont je suis, pourront payer $2.99 américains par mois.
Pour pas avoir de pub, c'est
pour
ça?
Pour pas avoir de pub. Fait qu'environ 4 piastres canadiens pour pas avoir de pub. Remarquez que moi, je me sers pas d'Amazon Prime Vidéo, je me sers d'Amazon Prime parce que ma télévision, c'est une Fire TV, fait que j'utilise Amazon Prime pour accéder, entre autres, à la télévision et tout ça. Bon, mais je ne me sers pas vraiment de Prime Video. Je suis jamais vraiment rentré dedans pour aller voir c'est quoi l'offre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent.
Vas-tu payer 4 piastres?
Non, pas en tout. Non. Ah non, pourquoi j'ai... Non.
Ah, puis ce qui est un peu drôle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont adhéré justement à des plateformes comme par exemple Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, qui, au moment où ils ont adhéré à ces plateformes-là, se poussaient des câbles aux distributeurs parce que, disait-il, il y a bien trop de publicité, ça coûte bien trop cher.
C'est ça, exactement.
Et là, tout ironiquement, d'un coup, depuis quelques années, font ces grandes plateformes de streaming?
Ils vous garochent de la pub.
Ils vous garochent de la publicité, puis ou en contrepartie, ils augmentent les tarifs si vous voulez pas en avoir.
Exactement. Et moi, j'étais bien content parce que j'avais Amazon Prime. Et là, je me disais, OK, la NFL annonce le jeudi, le match du jeudi va être télévisé sur Amazon Prime Video. Fait que j'étais tout content. Hi, ha, 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 right.
Ben là, le gars va se taper des pubs.
Ouais, mais c'est pas disponible au Canada.
Oh!
Alors, c'est ça. On l'écoute sur TSN. Okay. Pas le choix.
On va s'arrêter pour une courte pause, la première de l'émission. On revient dans un instant avec notre tout premier...
Notre quoi?
Notre tout premier invité.
OK, d'accord.
Merci. Ça a sorti quand je me suis tourné.
Ben oui, c'est ça.
Ben, ce que j'avais dans...
Oui, c'est vrai. Okay,
Nicolas Saint-Pierre s'en vient dans un instant. Restez branchés.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
Alors que vous nous écoutiez d'un peu partout à travers le pays, mes très chers amis, que vous soyez sur la
dans
côte est, absolument,
oui.
En Nouvelle-Écosse, à Halifax par exemple, on nous écoute via la station de radio là-bas, Victoria en Colombie-Britannique, Toronto, et en passant par les prairies,
Winnipeg,
bien sûr.
Oui, bien sûr.
Absolument. Vous avez très certainement une équipe préférée dans la Ligue nationale de hockey. C'est peut-être celle de votre province.
Il faut, c'est notre sport national.
Ben, j'espère. Et on a pensé pour cette émission-ci faire un petit tour d'horizon de la saison de la Ligue nationale de hockey qui débute, là.
Oui. Oui, ça débute. Et ce qu'on veut savoir, dans le fond, là, c'est qu'est-ce qui va se passer avec nos équipes canadiennes cette année dans la Ligue nationale.
Et on a pensé, non pas sortir la boule de cristal, mais plutôt parler avec celui qui est le descripteur des matchs des Sénateurs d'Ottawa à la radio.
On l'a fait descendre de la galerie de presse.
Absolument, et on l'a au bout du fil avec nous. Il est descripteur, comme je le disais, des matchs sur notre station de radio membre à Ottawa, Unique FM. Il est avec nous, Nicolas Saint-Pierre. Salut.
Bonjour, messieurs.
Salut.
Nicolas, donc, on va commencer, on va faire un tour d'horizon des forces en présence dans le circuit Batman, en commençant avec la Colombie-Britannique.
Ben oui, pour ce qui est des Canucks de Vancouver, on s'entend, je veux dire, au cours des deux dernières saisons, je dirais qu'il y a eu beaucoup de tergiversations. Monsieur Aquilini a dit que c'était pas une reconstruction, mais plutôt un reset. Patrick Alvin, qui est le directeur général, a des pièces importantes à aller chercher ou à ajouter à sa formation. Puis on va voir ce que ça va donner. On espère que cette année sera un grand cru, puis que cette équipe-là puisse participer aux séries. Il faut. Il y a eu plusieurs années de déception, puis là maintenant, on se tourne tous vers les leaders, dont Hughes, qui a été nommé capitaine. Quelques surprises d'ailleurs, si je me trompe pas, là, on cherchait un compagnon à la ligne bleue pour le monsieur, puis c'est McWard qui est sorti un peu des sentiers battus, qui devrait être celui qui va l'accompagner pour le début de la saison. On regarde beaucoup sur cette équipe-là, puis je pense qu'il y a encore une fois beaucoup d'yeux qui sont tournés vers ce noyau de leaders-là. Faudra que ça produise, mais je m'attends certainement que cette année-ci, l'équipe puisse passer par-dessus la butte, puis qu'on les voit au grand bal du printemps. C'est ma prédiction, mais encore, on est très, très loin de la fin de la saison.
Bon, on parle de passer une certaine butte. En Alberta, il y a une équipe qu'on aimerait bien voir passer la butte, ouais. C'est les Oilers. Mais les Flames aussi, là, ils n'ont pas un mauvais club. Là.
Puis le problème avec les Flames, c'est de convaincre les joueurs, les futurs agents libres ou les présents potentiels, en tout cas, qu'on peut rester puis qu'on peut avoir du succès avec les Flames de Calgary. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont maugréé. Puis là, l'arrivée de Craig Conroy comme directeur général, je pense que ça va apaiser justement certaines inquiétudes. C'est une équipe qui devrait normalement, encore une fois, aspirer certainement à faire partie des séries. Mais comme un peu les Canucks, il y a eu plusieurs déceptions dans cette formation-là. Alors, une année de transition avec une nouvelle direction, puis pourrait même dire peut-être un vestiaire avec une meilleure atmosphère pourrait faire en sorte que cette équipe-là puisse faire un push, certainement. Si tu me parles maintenant des Oilers, comme tu le dis, on semble se répéter. Je pense que le problème pour les Oilers avec deux des meilleurs, sinon les deux meilleurs joueurs au monde, c'est qu'il faut les accompagner puis ajouter un peu de viande autour de l'os. Est-ce que cette année sera la bonne? Ça va prendre certainement de l'offensive au niveau des joueurs de soutien. Mais cette équipe-là est condamné à gagner, puis on espère que cette année, on va les voir à la finale, mais encore une fois, c'est toujours un problème, c'est que tu as tellement d'investi avec quelques joueurs, ça prend encore une fois des joueurs de soutien. Est-ce que cette année sera la bonne? On se croise les doigts pour Canolan et sa gang.
Parce que la fenêtre va se refermer à un moment donné. Là.
C'est ça, puis à chaque année que cette équipe-là ne se rend pas à la terre promise, je dis que c'est une année qu'on a gaspillée avec McDavid, puis lui-même commence à trouver le temps long un peu. Alors, je suis sûr que lui aussi, on l'inclut dans le processus décisionnel. Ça prend les bonnes personnes. Puis c'est pas n'importe quel joueur qui peut se joindre dans un club comme celui-là. Puis on vit un peu les années qu'on a vécues avec les Wayne Gretzky de ce monde et les grosses années des années 80. Mais là, maintenant, il faut passer à l'échelon supérieur. Puis on espère évidemment qu'on aura trouvé les bons ingrédients pour meubler cet alignement-là avec, encore une fois, McDavid et Draisaitl.
Nicolas, si on reste dans les provinces de l'Ouest, on va se diriger du côté du Manitoba à Winnipeg avec les Jets.
Oui, nouveau capitaine avec Lowry, puis les Jets avec Rick Bowness l'an dernier, on a fait le ménage. Blake Wheeler, à qui on a enlevé le capitaine, puis ça, il y a eu des pleurs et des grincements dedans. Je pense que M. Bowness a décidé de mettre de l'ordre dans tout ça. Puis encore une fois, il faudra surveiller ce qui va se passer avec Halibut. C'est un gros asset qu'on pourrait certainement transiger si jamais on peut pas le garder avec nous. Mais les Jets, qui sont une bonne petite équipe, mais à défaut, je veux pas que les gens de Winnipeg me disent bon ben là qu'est-ce de quoi qu'ils parlent, mais c'est une bonne petite équipe, rien de plus.
Ok. De la misère à passer à l'autre étape.
C'est ça le problème, c'est que t'as une bonne formation, t'as eu des formations qui auraient pu certainement se rendre jusqu'au bout. Mm-hmm. Mais je pense qu'au cours des années, ce qu'on a noté, c'est que c'était pas une équipe qui avait un esprit de corps solide. Puis on sait tous que c'est un sport d'équipe. C'est pas une, c'est pas un vestiaire qui tient les coudes serrés. Ça peut avoir des dommages. Puis je pense qu'on les a vus au cours des séries ou dans les années où cette équipe-là devait faire un pouce. Alors, l'an dernier, ça a été une année où on a fait le ménage. Là, maintenant, sous l'air du nouveau capitaine, on espère évidemment que ce sera une bonne année pour l'équipe de Winnipeg.
En Ontario, on a la grosse équipe et l'équipe en ascension. Commençons par l'équipe en ascension, les Sénateurs.
Je pensais que tu parlais des Maple Leafs. Mais si tu parles des Sénateurs, je pense que le calendrier préparatoire est un signe que cette équipe-là est prête à devenir une équipe de pointe. Je vous dis pas qu'on doit se fier à ce qu'on voit en calendrier préparatoire, mais comme je le disais à DJ Smith, c'est que peu importe qui enfile ce chandail-là, on semble tous jouer de la même façon. Puis souvenez-vous, l'an dernier, quand on avait fait justement les changements derrière le banc au niveau de la Ligue américaine, un des arguments qu'on avait apporté, c'est qu'on voulait avoir une ligne directrice la même. On voulait que les deux entités soient au même diapason. Je pense que ce qu'on a vu en calendrier préparatoire, et c'est d'ailleurs ce que DJ Smith m'a dit, c'est effectivement ça, c'est le fruit de nos labeurs, puis le fruit de cette vision-là. Kachuk, Sanderson, tous les joueurs qu'on est allé chercher, qu'on a signés à long terme, ces gars-là veulent gagner ensemble. Sanderson, quand il a signé sa prolongation, il dit « Tout le monde le sait, on va gagner. » Et je veux être ici quand on va gagner. C'est toute une gang de chums, des jeunes, avec un bon groupe de vétérans pour venir les accompagner. L'arrivée de Korpisalo qui nous indique que cette fois-ci pourrait être la bonne. On n'a pas été chanceux au niveau des gardiens. Alors, on se croise les doigts pour que la santé soit bonne. Le dossier, évidemment, de Pinto qui traîne de la patte, ça peut être inquiétant. Également pour Norris, qu'on n'a pas vu encore une fois, même si on a dit que sa blessure à l'épaule était mineure. Alors, il y a encore quelques questionnements, mais cette équipe-là semble mûre. Hâte de voir la dynamique avec le nouveau arrivé, président aux opérations hockey, M. Staios, la dynamique avec le directeur général, M. Pierre Dorion. Alors, bien des éléments sur la glace, cette équipe-là va être bonne, va avoir son mot à dire pour les succès. Et oui, je les vois en série cette année, certainement.
Les Maple Leafs, maintenant.
Ah, les
Il faut
Maple
en parler,
Leafs,
on n'a pas le choix.
Ben, un peu comme j'ai dit pour les Oilers, cette équipe-là est condamnée à gagner et doit gagner. Le problème, c'est que dans la saison régulière, au niveau personnel, les joueurs de pointe ont livré la marchandise. Mais on dit souvent que dans les séries, c'est une autre bébite. Il faut sortir un peu le papier sablé. Je pense que le nouveau directeur général, M. Treliving, est allé chercher justement cet ingrédient-là qui faisait la différence. Les Reeves, les Domi, les Bertuzzi, pour avoir leur mot à dire, puis vont être un bon accompagnement pour les joueurs de pointe. Nylander, qu'on a décidé de commencer au centre, est-ce que ça pourrait porter fruit également? On a une très bonne profondeur. C'est une équipe menaçante à bien des niveaux. Petit questionnement peut-être à la ligne bleue. Treliving a dit que c'était une ligne bleue, une brigade défensive qui était mésestimée. Est-ce qu'il dit le même discours au moment où on se parle? Question qui demeure sans réponse. On pourrait le voir actif à ce niveau-là. Mais c'est une équipe qui sera jugée en série. Puis là, maintenant, qu'on a fait un petit bout de chemin en série, c'est une équipe qui va être jugée pour la finale. Alors, à surveiller les Maple Leafs cette année.
Il y a trop de talent dans cette équipe-là pour pas qu'elle gagne.
Ben, c'est ça, effectivement. Mais des fois, trop, c'est comme pas assez. Trop de talent, des fois, t'as pas assez de joueurs de soutien, vice-versa. C'est toujours de trouver le bon équilibre, mais sur papier, cette équipe-là regorge de joueurs de talent. Maintenant, c'est tout simplement de livrer la marchandise là où ça va compter.
Et pour boucler la boucle, on va se transporter du côté de la Sainte-Flanelle, le Canadien de Montréal.
Je vous entends mal, je m'excuse. le Canadien, écoutez, demeure le Canadien. Tout le monde veut voir cette équipe-là avoir du succès parce qu'on s'entend que des séries avec le Canadien, j'ai tout le temps dit que ça avait un petit piquant, même si je suis un grand fan des Nordiques. Ceci dit, c'est pas cette année où on va les voir justement dans les séries. C'est encore une fois une année où on devra faire progresser les jeunes. Mais je pense qu'on est entre bonnes mains. Je pense que le plan qui a été établi est le bon. Un peu comme on l'a fait parallèlement avec les Sénateurs au cours des dernières années. Il y aura des années de fâche-maigre, il y aura encore une fois du mécontentement, mais l'important, encore une fois, c'est de garder ce jeune noyau de joueurs-là dans le bon mindset, puis de les faire avancer encore une fois. Gorton puis sa gang de trouver les bons éléments pour ajouter. Mais je veux pas parler d'une année de transition, je veux pas parler d'une équipe de série, mais une équipe qui va pointer dans la bonne direction. Je pense que l'année prochaine, on pourrait commencer à les voir là, engranger quelques victoires, mais cette année sera une année de progression, encore une fois, pour la Saint-Flanelle.
Et Nicolas, en conclusion, la question à 1000 piastres. En fin de saison dernière, les Golden Knights de Vegas gagnent la Coupe Stanley. Je regardais il n'y a pas tellement longtemps. Bon, vous me direz, ça vaut ce que ça vaut, mais les preneurs au livre à Las Vegas disent que les prochains vainqueurs de la Coupe Stanley 2023-2024, ça pourrait être l'Avalanche du Colorado. On va-tu la revoir à un moment donné au Canada, la Coupe Stanley, ou bien c'est parti aux États-Unis pour de bon, je sais pas?
Ben écoutez, je pense qu'on peut espérer de les voir, puis on a deux équipes sur les sept canadiennes qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley. Je parle des Oilers d'Edmonton, puis je parle évidemment des Maple Leafs de Toronto. Alors, oui, je comprends que ça fait un bout depuis 1993, puis je pense que les fans de hockey canadien qui nous écoutent en ce moment crient famine à ce niveau-là. On voudrait être capable de la célébrer, puis de la voir peut-être aux communes sur la colline du Parlement pour une réception avec le premier ministre. Mais en tout cas, je pense que si on avait un vieux 2 à gager, j'apprends rien à personne. De l'Ouest, vous allez les Oilers puis les Maple Leafs. Mais encore, c'est bien beau se rendre aux séries, mais il faut produire à ce moment-là, puis c'est là qu'on doit sortir, comme je le dis encore, le papier sablé. Alors j'espère que cette année sera spécial pour ces deux clubs-là. Mais encore une fois, il n'y a rien de gagné parce que le plus difficile trophée à gagner dans tout sport professionnel, encore, je vous apprends rien en disant que c'est la Coupe Stanley. On va leur souhaiter la meilleure des chances. J'ai dit le mot de Cambronne. Puis un vieux deux. Puis entre les deux, mes préférés seraient les Oilers pour remporter la Coupe Stanley cette année.
Il est le descripteur francophone des matchs des Sénateurs d'Ottawa à la radio sur notre station membre d'Ottawa, Unique FM. Nicolas Saint-Pierre, pour ce tour d'horizon, merci beaucoup. Puis on espère qu'on va avoir des bonnes séries. Puis qu'à quelque part oui. Là-dedans, il va y avoir une ou deux ou trois équipes canadiennes, je ne sais pas trop.
Bon, oui, c'est ça. Puis ça fait un réel plaisir. Puis sérieusement, j'en profite pour dire une très bonne saison à tous les amateurs de hockey qui nous entendent en ce moment à travers le Canada. Puis à vous, messieurs, je vous dis une excellente journée. Mais on espère évidemment qu'on pourra s'en reparler la prochaine.
Merci beaucoup.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Il y a quelques jours, au début du mois d'octobre, s'est déroulée la, imaginez-vous, 32e édition de la course à la vie CIBC. Ça s'est déroulé, François, dans
53 communautés. Simon, on a réussi à aller chercher 14,5 millions de dollars. On a dépassé l'objectif.
Et la course à la vie CIBC, il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est en quelque sorte ce qui vient lancer un mois complet qui est consacré à la sensibilisation au cancer du sein. Oui. Et pour nous en parler, nous avons pensé rejoindre au bout du fil Isabelle Girard, elle est directrice des communications pour le Canada francophone et le Québec à la Société canadienne du cancer. On l'a avec nous. Bonjour, Madame Girard.
Bonjour.
C'est un beau succès, là, hein? 14,5 millions. L'objectif était en dessous de ça, là, si je me trompe pas.
Oui, tout à fait. Notre objectif à la Société canadienne du cancer était d'amasser 14 millions de dollars cette année. Donc, cette 32e édition nous a permis de dépasser nos objectifs pour la course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer. Il faut comprendre que l'argent amassé sert à financer des projets de recherche de calibre mondial, puis aussi des programmes d'une importance vitale pour les personnes touchées par le cancer. Donc, nous, à la Société canadienne du cancer, on utilise ces fonds-là vraiment pour sélectionner là, les meilleurs projets de recherche au pays et financer nos programmes. Là, je pourrais vous en parler davantage pendant l'entrevue.
On peut juste être heureux de résultats semblables à ceux-là. Madame Girard, il y a des choses, par exemple, qui sont moins réjouissantes là, quand on parle du cancer du sein, évidemment. Combien il y a de Canadiennes, approximativement, là, qui sont atteintes d'un cancer du sein à travers le pays?
Bien, l'an passé, on estime qu'il y a près de 29 000 personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein au Canada. À plus de 99 % c'est des femmes. Il y a quelques hommes qui ont parfois un diagnostic de cancer du sein parce qu'il faut savoir que les hommes ont aussi des glandes mammaires, mais essentiellement, ça touche les femmes. On estime qu'il y a une femme sur huit qui va recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie. Donc, ça touche vraiment beaucoup de monde, encore malheureusement. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la recherche et aux améliorations des traitements, depuis 30 ans, on a fait des programmes remarquables, ce qui fait qu'un diagnostic de cancer du sein, ce n'est pas nécessairement la fatalité. La plupart des gens, 89 % des femmes, survivent plus de 5 ans après un diagnostic de cancer du sein quand c'est pris à temps, quand c'est bien traité.
Quelle place occupe le cancer du sein parmi les principaux cancers dont souffrent les Canadiens et les Canadiennes?
Bien, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes. Mm-hmm. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les femmes. Donc voilà, donc comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment un cancer qui est important, qui touche beaucoup de gens, mais on a fait des progrès remarquables grâce à la prévention, la détection précoce puis le diagnostic du cancer du sein.
Ouais, évidemment qu'une entrevue comme celle-ci, c'est pas nécessairement pour ameuter les gens, là, faire peur, mais aussi faire prendre conscience qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été réalisés, hein, Madame Girard. Somme toute, là, les travaux en recherche pour le traitement, le dépistage du cancer du sein et tout ça, on est quand même rendu beaucoup plus loin qu'on l'était, ne serait-ce, j'imagine, que 20-25 ans ou quelque chose dans le genre, là.
Oui, on a fait des pas de géant en matière de cancer du sein. En termes de prévention, diagnostic, traitement, les traitements et aussi après la maladie. Donc, les fonds qu'on investit en recherche et en programme de suivi, ça vise vraiment à améliorer la vie des personnes atteintes par le cancer du sein et leur qualité de vie de manière à ce que les gens vivent le plus longtemps possible et avec une meilleure qualité de vie possible. Donc, pour vous donner une idée, nous, à la Société canadienne du cancer, au cours des 5 dernières années, on a investi plus de 62 600 000 $ dans des projets de recherche sur le cancer du sein au pays. On offre aussi des services de transport pour aider les gens qui font face au cancer à se rendre à leurs rendez-vous médicaux, donc cancer du sein et aussi autres cancers. On a 7 maisons d'hébergement à la grandeur du pays pour accueillir les personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein ou d'autres cancers qui doivent suivre leur traitement loin de leur domicile, donc ils doivent venir en ville, dans des grands centres pour suivre leur traitement. Ils peuvent utiliser nos maisons d'hébergement. Puis on offre aussi un service de banque de prothèses capillaires et d'accessoires capillaires gratuits pour les personnes qui ont perdu leurs cheveux en raison de traitement de chimiothérapie, par exemple, pour le cancer du sein. Ce que les gens ne savent pas nécessairement aussi, c'est qu'on offre une ligne d'assistance téléphonique nationale sans frais qui fournit de l'information fondée sur les données probantes, donc des informations validées scientifiquement aux personnes qui font face au cancer, des fois leurs proches, leurs familles, leurs amis, même le grand public. Si vous voulez, je peux donner le numéro. C'est le 1-888-939-8888. Donc, 4 fois le 8, 1-888-939-8888. Et les gens peuvent appeler à obtenir des informations en français, en anglais, en d'autres langues aussi. C'est un service téléphonique gratuit. Donc, l'argent amassé dans le cadre de la course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, ça sert notamment à financer cette ligne nationale-là sans frais. Okay.
On a eu la course à la vie CIBC, on l'a mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus en octobre?
Le mois d'octobre, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Donc, c'est sûr que nous, à la Société canadienne du cancer, la course à la vie CIBC, c'est notre événement fort. Mm-hmm. Je vous dirais qu'on a d'autres programmes et d'autres initiatives. Ça dépend vraiment des provinces, des régions. Par okay. exemple, au Québec, en ce moment, on a lancé la campagne Mémo Mamo pour inciter les femmes dans la cinquantaine de 50 à 69 ans à participer au programme québécois de dépistage du cancer du sein.
Madame Girard, le cancer du sein, évidemment, c'est un cancer qui a quand même un pas pire pronostic avec les avancées technologiques qu'on a connues ces dernières années. Si on veut pas faire partie des statistiques en terminant, là, parce que le mois, évidemment, c'est pour sensibiliser à l'existence de ce cancer-là, mais aussi faire prendre conscience aux dames l'importance du dépistage. Allons-y avec quelques chiffres. Là. C'est quoi la fréquence? À quel âge on commence à s'inquiéter ou enfin à passer un test de dépistage pour le cancer du sein?
Ben, normalement, à l'heure actuelle, les lignes directrices canadiennes recommandent le dépistage par mammographie. Donc, la mammographie, c'est une radiologie du sein. Finalement, c'est une photo du sein à tous les 2 ans pour les femmes de 50 à 74 ans qui ne sont pas à risque élevé d'un cancer du sein. Aux femmes de 40 à 49 ans, on recommande de discuter avec leur médecin pour savoir si la mammographie, c'est une bonne idée dans leurs conditions. Puis, faut savoir par contre que ces lignes directrices-là n'ont pas été revues depuis 2018. C'est quand même long. Ça fait plus de 5 ans. Donc, ces lignes-là sont en cours de révision. Puis nous, à la Société canadienne du cancer, on espère vraiment qu'elles vont être améliorées pour tenir compte des femmes qui présentent un risque accru d'avoir un cancer du sein, par exemple, qui ont des antécédents familiaux. Et on s'est engagé à faire part de nos préoccupations aux décideurs. Donc, le gouvernement du Canada, d'ailleurs, a investi en juin 500 000 $ pour accélérer la révision de ces lignes directrices-là, parce que nous, les femmes qui nous contactent, disent c'est pas tout à fait adapté à notre réalité. On aimerait avoir un meilleur accès au dépistage. Il y a aussi, dans certaines régions, des problèmes d'accès au dépistage. Et je pense que le message à passer aussi, c'est que dans toutes les provinces et territoires, excepté le Nunavut, il existe un programme organisé provincial de dépistage du cancer du sein. Donc, n'hésitez pas, je parle à vos auditrices, là, n'hésitez pas à participer et à suivre, à faire votre mammographie aux 2 ans dès que vous êtes admissible, parce que le dépistage du cancer du sein, c'est vraiment important pour permettre la détection précoce de la maladie. Puis plus le cancer du sein est détecté tôt, meilleures sont les chances de survie et le réussite du traitement et de survie. Donc, vraiment, la mammographie, c'est le meilleur moyen de détecter un cancer du sein.
Sentez-vous qu'il y a une meilleure prise de conscience au sein de la population?
Oui, mais dans certaines régions, on constate une certaine hésitation. On l'a documenté, par exemple, au Québec, il y a des femmes dans la tranche de 50 à 54 ans, c'est les femmes qui participent le moins au programme provincial de dépistage du cancer du sein. Donc, ça varie. Mais globalement, ce qu'on se rend compte, c'est souvent les femmes en début de cinquantaine n'ont pas le réflexe parce qu'elles pensent d'aller passer leur mammographie parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas à risque. Okay. Mais c'est pas parce que on n'a pas un historique familial de cancer du sein là qu'il y a pas des risques d'avoir un cancer du sein soi-même. Donc c'est vraiment important de passer la mammographie. C'est pas douloureux, ça prend 2 minutes puis ça peut vraiment nous sauver la vie.
Madame Isabelle Girard, merci beaucoup pour ces explications. Octobre, mois de sensibilisation, évidemment, on l'a dit, au cancer du sein. Vous êtes directrice des communications pour le Canada francophone et le Québec à la Société canadienne du cancer. Moi, en termes de cette entrevue-là, au moins, on peut se réjouir des avancées qui sont survenues ces dernières années dans le domaine de la médecine. Et on peut s'encourager aussi, parce que ma mère a eu un cancer du sein. Fort heureusement, elle s'en est sortie. Et ça, c'est grâce au travail d'organisations comme la vôtre, la Société canadienne du cancer. Merci beaucoup, Mme Girard.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Peut contenir des infos.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz.
Le quiz.
J'espère que tu as étudié cette semaine, mon cher ami.
Pas tant, non?
Non?
Ah. Pas tant, non?
Fiouf! Ça va t'aider dans le quiz de cette semaine.
Okay. Ben, en tout cas, j'espère avoir des bonnes réponses.
Okay. C'est très général.
Okay.
Je vais vous donner des choix de réponses à la maison. Inquiétez-vous pas, vous allez voir, c'est un quiz qui est relativement facile.
Là, tu vas pas essayer de me pogner avec les signes de l'astrologie et des affaires de même, là?
Non. Okay. Pas du tout. Première question, mon cher ami. Combien de temps faut-il généralement à un paresseux On parle de l'animal, là.
Oui, pas, absolument. Pas un beau-frère, mettons, qui était.
Non, c'est ça. C'est pas ça. Un ado, là. Pour parcourir 1 kilomètre.
Oh!
OK. T'as le choix. 4 jours, 1 semaine, 2 semaines ou plus d'un mois.
Oh non, 2 semaines, là, quand même, là. Ben non.
C'est plus d'un mois.
Pour vrai?
Pour de vrai. C'est un animal qui dort plus de 18 heures par jour. C'est pas pour rien qu'on l'appelle paresseux. il tient vraiment son nom, lui.
Okay.
De combien de pièces au total le château de Versailles est-il composé? 500, 1400, 2300, 3800.
Ouais, 2300 probablement, là. Ça fait assez logique, non?
Oui. C'est très logique. Bravo, mon cher. Les 2300 pièces du château s'étendent sur un total de 63 150 mètres carrés.
Quand tu sors la balayeuse, tu sors la balayeuse pour de quoi, au moins? tu peux pas dire j'ai acheté une balayeuse pour un petit coin de carpette, là.
Non.
Hein?
Non.
Il y a un peu de plancher.
Non, puis c'était un iRobot, là, tu sais, les petites affaires, là.
Vous travaillez. Ça fait un mois qu'on n'a pas vu.
Oui, c'est ça.
Il est rendu où, donc? Il est rendu à quelque part, je sais pas trop.
Question numéro 3. Quel pays possède plus de lacs que tout le reste du monde réuni? Le Brésil? La Russie? Le Canada? Ou la France?
Je serais sans doute tenté de dire le Brésil, probablement. Ben non.
C'est le Canada, mon cher ami.
Ah oui. Hein?
60% des lacs du monde entier se trouvent au Canada.
Ah, ben c'est bien ça.
Oui, hein? Quelle discipline était présente aux Jeux olympiques jusqu'en 1948? La peinture, la danse, le calcul mental, les échecs.
Je dirais probablement la danse, là. Encore?
Oui.
Mais non.
C'était la peinture.
La peinture.
Imagine-toi, de 1912 à 1948, 5 disciplines artistiques faisaient partie de la compétition.
Ah.
Peinture, littérature, architecture, musique et sculpture.
Oui,
puis des médailles étaient décernées dans toutes ces disciplines-là.
Ah, j'ai rien contre l'idée, c'est pas ça, mais...
Mais la peinture, c'est quoi une compétition de peinture?
C'est ça que j'ai de la misère à comprendre, parce que, tu sais...
La littérature.
Ben, oui, mais en partant, je veux dire, l'art, c'est quelque chose de très, subjectif.
Oui.
Tu sais, c'est dans l'œil de celui qui l'apprécie.
Exactement.
OK, c'est spécial.
Oui, c'est ça. Question numéro 5. Quelle est la durée du règne le plus court de l'histoire de la monarchie française? 20 minutes, 6 heures, 1 jour ou 5 jours?
Je sais que c'est une couple de minutes, là. C'est 20 minutes là, de mémoire. Je pense que oui.
C'est ça. Oui, Louis XIX n'a régné que 20 minutes. Il est devenu roi lorsque son père Charles X a abdiqué en pleine révolution de juillet en 1830. Sauf qu'il décide lui aussi d'abdiquer pour éviter une nouvelle révolution. Il n'a été roi que le temps de signer son renoncement. C'est finalement Henri V.
20 minutes.
Son neveu âgé de 9 ans qui va devenir roi.
20 minutes, t'as pas le temps de trop former la couronne, là.
Non. Tu sais, non, t'as pas le temps de prendre trop de décisions, là.
T'as pas le temps de prendre trop de plis, c'est correct. Tiens, prends là, c'est à toi.
Ouais, c'est ça. À quoi correspond le nom? OK, celle-là, je l'avais pas. Je l'avais pas réessayé encore. OK. À quoi correspond le nom? Lan-fer-gr-bl-gling-gi-il-gro-geri-chui-rand-ro-bral-an-ti-silo-go-go-gauche.
Vous voyez pas ma face, hein? Ça vaut 1000 piastres.
OK. C'est-tu...
Tu peux-tu me répéter ça, s'il te plaît?
Non!
Je t'en ai. OK.
Hey, je suis rouge. Oh, tellement que ça m'a pris tout pour prononcer ça. OK.
Oh,
c'est le nom donné à un enfant en Islande le nom d'une ville du pays de Galles, le nom d'un insecte exotique ou le nom d'une maladie?
À la prononciation, enfin, à la forme, là, je sais pas trop, là, mais je dirais que c'est quelque chose comme en Islande, très probablement.
C'est le nom d'une ville du pays de Galles.
Ah oui?
Cette ville de 3000 habitants est plus couramment nommée sous la forme raccourcie de Llanfairpwllgwyngyl. Avec 58 caractères, ce nom est le second plus long nom du monde, mais le plus long d'Europe. Le record est détenu par un sommet de Nouvelle-Zélande qui possède 85 caractères. Non, mais, regarde, je vais te monter les caractères, là.
Hey. Ben non. Ben non.
Essaye de prononcer le nom de ta ville.
C'est pour vrai, ça?
Ben oui, c'est pour vrai. Ça existe pour de vrai, là. Non, c'est tout ce que je te dis, moi, c'est de l'info pour... que ce soir, tu te couches moins de nous, là.
Ben oui, ben je vais pas m'en souvenir trop. C'est pas grave.
7. Pour quelle raison la tour de Pise est-elle penchée? C'est un petit peu plus facile, là. C'est une volonté initiale de l'architecte à cause de 4 tremblements de terre. Le sol s'est enfoncé lors de la construction. C'est une erreur dans la construction des différents niveaux.
C'est que le sol s'est affaissé légèrement.
Vous avez raison, mon cher ami. Félicitations. Merci. Vous gagnez un beau toutou. À combien estime-t-on le nombre de photos prises chaque jour en 2022 dans le monde?
J'aime autant même pas y penser.
Avec les téléphones, c'est rendu débile, là. 200 millions, 600 millions, 1,5 milliard ou 5 milliards?
Considérant le nombre de gens qui sont maintenant dotés d'un appareil, un téléphone cellulaire dans leur poche, je dirais qu'on doit pas être loin du 1,5 milliard au couchant genre.
C'est en plein ça, mon cher ami. Ouais. Il n'y avait que 600 millions de photos par jour en 2013. À titre de comparaison, nous prenons en une minute autant de photos que durant tout le 19e siècle.
C'est incroyable. Mais est-ce qu'on prend...
C'est effrayant, là.
Est-ce qu'on prend toujours de bonnes et de belles photos?
Est-ce qu'on prend toujours des photos utiles? Non.
Et ça, c'est un autre débat. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire. Tu sais, moi-même, ça m'arrive, des fois, je suis en voyage, je prends une photo, puis après, je la regarde, puis je fais comme... Pourquoi j'ai photographié ça?
C'est ça!
Puis là, elle va rester là pendant, mettons, une couple d'heures, une couple de jours, là, tu la regardes, puis à un moment donné, tu as comme une soudaine prise de conscience, tu dis, hey, ça prend de la place pour rien, dans mon téléphone. Tu la mets même pas dans le cloud.
Non. Non.
Tu la montres même pas à personne, tu fais juste comme, bon, supprimé finalement.
Ben, c'est ça, supprimé. Hein? Moi, j'ai mon nouveau téléphone, j'ai deux boutons sur le côté gauche que tu peux...
Des boutons fonction.
Des boutons fonction, tu peux leur donner une fonction. Fait que un est venu avec appareil photo, mais moi, j'avais pas vérifié ça au début. Et moi, je mets toujours mon téléphone dans ma poche en arrière. Alors, je marchais, je suis allé prendre une marche, je reviens à la maison, je regarde mon téléphone, puis là, je vois 130 photos. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai pris 130 photos de l'intérieur de la poche de mon pantalon.
Ah, ben c'est bon.
Oui, c'est intéressant, finalement.
C'est toi qui as fait grimper le taux, là.
Ben oui, c'est à cause de moi.
C'est à cause de toi, ça.
9. Pour quelle raison l'île indienne de North Sentinel est-elle strictement interdite d'accès? Il y a des plantes extrêmement toxiques. Il y a une tribu de guerriers. L'île possède un caractère sacré en Inde. C'est un lieu de reproduction privilégié des tortues marines.
Je crois avoir déjà entendu parler de ça et il me semble que c'est qu'il y a une tribu qui habite là et il faut pas les déranger.
Les Sentinelles est une des dernières tribus au monde à être complètement coupée du monde extérieur. Oui. Ils n'hésitent pas à tirer avec des flèches sur tout ce qui tente d'approcher de l'île. En 2018, John Shaw, un Américain de 27 ans, est mort à coup de flèche. Oui. Après avoir débarqué sur l'île en canot, son corps a jamais été récupéré. Alors, n'allez pas là. Qu'est-ce qui n'est pas illégal en Allemagne? Voler pour manger? Garder un crocodile à la maison? S'évader de prison? Ou griller un feu rouge?
C'était un alligator ou un crocodile, je sais pas trop.
Oui, j'ai dit un crocodile.
d'après moi, ça ne doit pas être illégal.
Mon cher ami, vous n'avez pas raison.
Ah?
S'évader de prison.
Ben, quoi?
Il n'est pas illégal de s'évader de prison en Allemagne.
Hein?
Ils considèrent que c'est un instinct fondamental chez les humains de s'échapper pour être libre. On ne peut pas être condamné pour s'être échappé de prison, mais en revanche, la police vous recherche pour que vous terminiez votre peine initiale.
OK. OK. Hey, c'est surprenant, ça.
C'est pas pire, hein?
C'est vraiment surprenant.
J'ai fait le saut quand j'ai vu ça. J'ai dit, ben voyons donc, toi.
En clair, c'est aux autorités carcérales
oui.
de s'organiser pour pas que tu te sauves.
Ben, c'est à peu près ça.
Parce que si tu réussis à te sauver, ils ont failli, disons, à la garde d'un prisonnier.
C'est ça. Mais ils vont te retrouver, puis bon, ils vont te rendre en prison, puis tu vas finir ta peine, mais quand même.
Mais tu seras pas jugé par
mais
la
tu
suite
seras pas jugé.
Devant
tu n'auras pas une peine
supplémentaire.
Plus grande, non.
Eh ben.
Dernière question, mon cher ami, parce que le temps file.
Oui, absolument.
En moyenne,
oui.
Combien d'années un homme passe-t-il aux toilettes au cours de sa vie?
Trop.
Ça n'est pas des noms. Mon père, je suis sûr que c'était... En tout cas, un an, deux ans, quatre ans ou cinq ans?
Mon ado, entre autres, je dirais cinq ans probablement. Très probablement.
Père, c'était ça aussi. Mais c'est deux ans.
Ah, c'est juste deux ans?
Oui.
Ah, ben, mais quand même.
Mais on perd deux ans de notre vie.
Et oui.
Puis, tu sais, dans le temps, bon, il allait à la chambre de bain avec le journal. Là.
Oui.
Et il ressortait, puis il avait lu le journal. Il avait lu le journal au complet.
Ah, mais remarque qu'aujourd'hui, on rentre là avec le téléphone.
Ah, ben là, c'est, ben oui, c'est ça. C'est pas mieux, là.
Tu sais, la meilleure façon de sortir un adolescent de la salle de bain, c'est de couper le Wi-Fi.
Que j'allais dire, tu mets une pizza au four, là, mais...
C'est de couper le Wi-Fi.
C'est de couper le Wi-Fi.
Quand il rentre à la toilette, meilleure affaire à faire, c'est de le faire sortir pour venir souper ou quoi que ce soit du genre. Tu fais juste couper
reset.
Le Wi-Fi.
Reset.
Et 30 secondes après, comme par magie, ah, tiens, t'es là, toi.
Mon Dieu, regardons, ça n'a pas été long aujourd'hui.
Exactement. Et c'est la conclusion de notre émission. J'ai eu deux, trois bonnes réponses, mais...
Ah, t'en as eu plusieurs. T'en as eu plusieurs. Okay. Ouais, tu peux te coucher fier.
Une bonne petite tape dans le dos. On va se retrouver la semaine prochaine.
Vas-tu me laisser Je t'en donne une tape dans le dos?
Non, ça va être correct. Je vais m'auto-congratuler.
OK.
On va se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine édition de Plus Contenir des Infos.
Oui, bonne semaine.
Salut.